Vous êtes sur RTL.
RTL Matin,
Yves Calvi.
8h24, comment va-t-on fêter Noël cette année? Comment faire pour limiter les risques? Nous allons tenter de vous aider et de vous donner des conseils ce matin avec notre brigade RTL. Bonjour Sophie Orange.
Bonjour et bonjour à tous.
La première question que tout le monde se pose, faut-il se faire tester avant d'aller voir ses grands-parents ou sa famille? Comme ça, si je suis négatif, moi je suis rassuré en fait.
C'est tentant. Oui. On est tous d'accord. Surtout avec les tests antigéniques et ses résultats en 15 minutes, mais ce n'est pas une bonne idée, vous allez comprendre pourquoi. La Haute Autorité de Santé déconseille fortement les tests antigéniques pour du dépistage individuel. Ils ne sont pas du tout fait pour ça, surtout quand le virus circule très très peu. Le risque, en fait, c'est qu'un cas sur deux serait faussement positif. Vous restez donc à la maison pour rien, ce serait dommage. Mais plus grave, pour le président du syndicat des laboratoires, une fois sur deux, vous passez entre les mailles du filet. Autrement dit, le test est négatif alors que vous êtes positif.
Et les tests PCR ne sont pas recommandés non plus avant les vacances?
Alors c'est vrai qu'ils vous permettront de détecter des cas positifs, ça c'est sûr. Mais si vous vous faites tester le mauvais jour par rapport à l'incubation de la maladie, le test sera négatif parce que la charge virale est encore trop faible pour être détectée par le test. C'est pas la bonne fenêtre. Vous êtes négatif le jeudi, mais positif et donc contagieux le dimanche. Autre limite, vous êtes vraiment négatif le jeudi, mais en voyageant en transport par exemple, il y a un mini risque que vous attrapiez le virus. Vous le voyez, le test ne vous protège pas, il ne protège pas les autres. C'est vraiment une information à un instant T.
Mais on fait quoi alors, Sophie?
Alors la seule situation où le test est recommandé et utile, c'est si vous avez partagé un moment sans masque quelques jours avant les vacances. Là, vous vous faites tester, test PCR, 7 jours après ce dîner ou ce déjeuner.
Oui.
Et l'idéal, c'est pas le test, c'est plutôt de se reconfiner une semaine avant de partir et de mettre le masque à l'intérieur quand vous retrouvez tout le monde.
6 à table, c'est donc la limite conseillée?
Oui, c'est ça, c'est parce que c'est plus facile de garder les distances. Mais si vous voulez connaître vraiment le risque d'avoir un voisin de table positif, allez sur le site covidtracker.fr, créé par des statisticiens passionnés. Vous indiquez votre département, le nombre de personnes à table et vous avez le résultat. Exemple, si tous les Français respectent cette règle de 6, tout le monde, cela engendrerait tout de même plus de 600 000 cas contacts. Et si finalement tous les Français décident de se réunir à 20 personnes, il y aurait 2,5 millions de cas contacts. Vous le voyez, c'est pas pour embêter tout le monde que ces règles sont fixées. C'est parce que les conséquences sont très concrètes, avec un vrai risque de rebond, pour pas dire une troisième vague.
Merci beaucoup Sophie Orange. Bonjour Mathieu Friedberg.
Bonjour monsieur.
Vous êtes le directeur général de Seva Logistics, une entreprise suisse qui appartient à la CMA-CGM. Au-delà du défi sanitaire avec ce vaccin, le premier défi, Mathieu Friedberg, c'est de rendre accessible le vaccin partout en France. Si on commence dans l'ordre, où vont être physiquement produits, je dis bien produits, l'ensemble de ces vaccins?
Écoutez, si vous me permettez 2 minutes de digression, oui. Si on place les chiffres, on aura à peu près 15 milliards de doses qui vont être produites globalement pour faire face à la crise de la Covid.
À l'échelle de la planète?
À l'échelle de la planète. Donc sur ces 15 milliards de doses, les grands chiffres qu'il faut avoir en tête, c'est que probablement entre 20 et 30% seront des vaccins de type de celui de Pfizer, c'est-à-dire des vaccins qui bougeront à des températures très basses de moins 70, qui sont une logistique très particulière. Vous aurez à peu près entre 70 et 80% de ces vaccins qui bougeront à des températures, disons, de frigo, entre 2 et 8 degrés. Et sur ces 15 milliards, vous en aurez 50% qui auront une logistique purement terrestre et 50% qui auront une logistique avec de l'aérien au milieu. Donc, pour revenir à votre question, la distribution en Europe sera faite depuis des sites de production européens et la distribution en Amérique du Nord sera faite depuis des sites de production en Amérique du Nord.
On va avoir des points aériens néanmoins ou ils ne seront pas nécessaires?
Alors, tout dépend des vaccins. Il se peut que pour certains vaccins, type les premiers vaccins Pfizer et Moderna, donc j'ignore exactement où sont les premiers sites de production, il se peut qu'on ait un début de point aérien, mais le gros de ce qui arrivera en France sera produit en Europe ou en France.
Cela change beaucoup votre façon de faire votre travail?
Écoutez, la logistique du vaccin, c'est une logistique qui existe depuis très longtemps. Donc, encore une fois, je distingue entre le vaccin à moins 70 et le vaccin entre 2 et 8 degrés. Sur le vaccin entre 2 et 8 degrés, qui se transporte comme le vaccin de la rage ou d'autres, c'est une logistique qui existe. Ça nécessite un peu d'investissement parce qu'il faut être en capacité d'assurer, on va dire, la chaîne du froid, depuis le départ jusqu'à l'arrivée. Donc, ça veut dire être en capacité d'aller récupérer dans des conditions optimales le vaccin auprès du labo, le transporter jusqu'à un aéroport, dans un aéroport, le maintenir à température, le mettre dans un avion, etc. jusqu'à l'arrivée. Donc c'est une logistique spécifique, avec de l'expertise, mais qui est active depuis de très longues années. Et donc il n'y a pas de difficulté technique à la mettre en œuvre.
Excusez-moi, mais vous êtes suffisamment équipé et vous avez le savoir-faire?
Alors, nous, chez Ceva Logistique, on a construit ce savoir-faire puisqu'on avait pris la décision stratégique de nous déployer dans la pharma il y a un peu plus d'un an et demi. Donc, on avait entamé, en fait, tout ce qui... les investissements. Donc, principalement, les investissements, c'est à la fois des investissements physiques dans les chambres froides, auprès des aéroports, à proximité des aéroports, ce qu'on appelle des gateways.
Oui.
On en aura 42 dans le monde. Et puis après, il y a toute la couche, disons, informatique et IoT, c'est-à-dire la capacité à tracer, effectivement, ces vaccins de bout en bout pour en assurer la qualité.
Est-ce qu'on a des révélateurs du fait que la chaîne du froid ou de la chaîne tout court puisse ne pas à un moment ou à un autre avoir été respectée ?
Oui. Aujourd'hui, d'abord, c'est très encadré. C'est à la fois encadré, disons, par les autorités sanitaires, qui elles-mêmes encadrent les labos, qui eux-mêmes encadrent les logisticiens. Donc, les labos sont redevables de ce qu'ils délivrent. Hein. Donc, bien évidemment, quand on opère pour un opérateur, un Sanofi, un AstraZeneca, etc., nos solutions logistiques, celles que nous proposons, sont homologuées par ces laboratoires.
Comment on transporte du moins 70 en France ? On a suffisamment de camions permettant de le faire ?
Alors moi je suis pas un spécialiste du moins 70, mais le moins 70 par essence ça se transporte dans des conditions particulières avec de la glace carbonique, donc c'est vraiment quelque chose de très particulier. C'est une logistique assez proche de la logistique de l'organe si vous voulez.
Oui. Hein,
on a un certain nombre de moyens, il y a des logisticiens spécialisés qui font ça depuis très longtemps et qui se sont spécialisés sur ce créneau-là. Après la masse, il reste à voir. Mais a priori, oui, on devrait être en capacité de distribuer. Après, c'est vrai qu'on a un peu l'impression que tous ces vaccins vont arriver au même moment de manière absolument massive. Ce qu'il faut garder à l'esprit quand même, hein, c'est que ces vaccins et la distribution de ces vaccins, ça va s'étaler dans le temps tout au long de l'année 2021. Hein, donc, on parle d'une logistique qui est mondiale, puisqu'on va essayer de vacciner une majeure partie des populations à risque dans le monde. Et donc, en effet, c'est une logistique qui va démarrer dans un certain nombre de pays développés, puis elle va petit à petit se répartir dans le monde.
Donc l'idée d'un pont aérien qui serait encore plus important que celui de la fin de la Seconde Guerre mondiale n'a pas de sens. Tout cela va être géré dans la durée, si je vous comprends bien.
Oui, absolument. Je pense que, y compris si on compare ça à ce qu'on a pu mettre en œuvre de manière très rapide au moment où on avait besoin de masques en France et en Europe d'ailleurs, ça a été une logistique qui d'une certaine manière était plus particulière que celle du vaccin, parce que le lieu de production était unique. Mm-hmm. Vous aviez quasiment 100% de la production qui était faite en Chine, donc des premiers goulets d'étanglement. Temps très très court, beaucoup de monde a commandé au même moment énormément de masques, parce qu'on en a tous besoin et qu'on a été un peu pris de court par la première vague. Et donc ça a créé en effet un certain nombre de goulets d'étanglement qu'on a connus à l'aéroport, à Shanghai. Vous aviez des files de camions pendant des kilomètres. Ce type de problème-là, on ne l'aura pas dans la logistique du vaccin.
Nous ne connaîtrons pas des difficultés comme celles qui ont marqué les acheminements de nos masques.
Je ne pense pas, non.
Vous êtes prêt ? Il y a une excitation, si je dirais, à mener une opération de ce type ?
Bien sûr. D'abord, on est nous aussi dans nos vies personnelles et professionnelles évidemment touchés par la Covid. Donc, il y a beaucoup d'espoir de partout dans le monde. Donc, bien évidemment, on est très content de pouvoir participer en tant que groupe CMA-CGM à cette logistique du vaccin. Donc, oui, il y a beaucoup d'excitation, il y a beaucoup de préparation, il y a beaucoup de sérieux aussi, oui. Et de discipline parce que on transporte des vaccins, on transporte, c'est pas des masques,
type
de comparaison. Donc, voilà, on s'y prépare, on met tout en œuvre pour être prêt. On est en train de boucler la mise en place de nos fameuses gateways, comme on dit, dans les 42 aéroports. On sera prêt à la fin du premier trimestre et on sera en mesure à ce moment-là de déployer la logistique pour les vaccins qui se transportent à des températures de frigo, c'est-à-dire entre 2 et 8 degrés. Voilà.
Nous sommes prêts, nous dites-vous ce matin sur RTL. Merci beaucoup Mathieu Friedberg. Je rappelle que vous êtes le directeur général de Ceva Logistics qui appartient à la CMA-CGM et je remercie aussi Étienne Baudu qui était à vos côtés pour mener cette liaison. Très bonne journée à vous et bon travail.